Bienvenue dans Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réunis. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi des actus, des découvertes et les derniers épisodes du podcast. Inscrivez-vous sur www.entreprendredanslamode.com. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Anne Fleur Broudehou. C'est ça.
Hein oui, c'est bien ça.
Je ne l'ai pas écorché. C'est la cofondatrice de Roséana. Bonjour Anne Fleur.
Bonjour Adrien.
Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît?
Alors, bonjour Adrien. Je suis Anne Fleur Broudehou. Je suis la cofondatrice de Roséana, une marque de prêt-à-porter féminin. La maman de deux petits garçons. Et puis voilà, en deux mots, c'est ça.
Très bien. Et ma deuxième question, c'est... Est-ce que tu peux reprendre ton parcours depuis ta plus tendre enfance, si tu penses que c'est nécessaire de revenir aussi loin, jusqu'à la création de Roséana? De Roséana, hein. Moi je dis Roséana, mais alors...
Alors on dit Roséana.
Roséana, parce que je vais faire la même chose qu'avec Sesoun. J'arrêtais pas de dire Sesoun tout le long de l'interview, c'est assez désagréable, je pense, pour...
Non, mais t'es pas le seul, nous il y a à peu près 50% des gens qui disent Roséana parce qu'il y a un E.
Ouais.
Et pour nous ça a toujours été Roséana. Mais...
Roséana, ok, Roséana. Donc voilà, est-ce que tu peux reprendre ton parcours depuis ta plus tendre enfance?
Alors, je suis issue d'une famille de 5 enfants. J'ai grandi donc à Lille, dans le nord de la France. J'ai grandi avec 3 frères autour de moi, ce qui est une particularité, je pense, puisque j'étais d'un côté ultra fifi et à la fois un peu garçon manqué. Mmh. Donc je pense que c'est ce qu'on a retrouvé après dans le style de la marque, c'est pour ça que j'en parle. J'ai grandi baignée dans un univers textile depuis ma toute petite enfance, puisqu'en fait toute ma famille à peu près depuis des générations est issue de l'industrie du textile.
Ouais, comme beaucoup de gens à Lille, non?
Bah voilà, c'est quand même un des berceaux du textile français. Mmh. C'est un vivier d'entrepreneurs et c'est quand même une région hyper dynamique. Et donc j'avais cet aspect-là qui était mon quotidien. Et d'un autre côté, ma maman artiste, mon arrière-grand-mère peintre. Donc voilà, en tout cas, une immersion complète dans un univers et artistique et à la fois assez business. Donc je pense que c'est quelque chose qui m'a complètement façonnée et fait ce que je suis aujourd'hui.
C'est trop bien. Enfin, mmh. C'est génial. Non, mais c'est une chance folle d'avoir les deux, le business et l'artistique. C'est souvent un truc qui manque aux créatifs, justement.
Bah voilà, bah moi, on va dire que c'est naturel chez moi.
T'es née avec ça.
Voilà.
Très bien. Et alors, raconte-nous un petit peu ton enfant, tu viens de nous en parler, mais qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais ado? Tu t'imaginais comment? C'était quoi les projections quand t'as grandi?
Alors déjà, quand tu nais à Lille, t'as l'impression d'être né au centre du monde. Tu as l'impression que tout ça te suffira parce que c'est la plaque tournante mondiale. Donc non, en gros, j'ai grandi de manière extrêmement épanouie à Lille. J'ai une enfance hyper heureuse, assez riche, puisqu'on est quand même une famille assez complexe malgré tout. Et donc voilà, une éducation hyper ouverte et à la fois j'ai dû m'adapter à plein de situations parce que j'ai été envoyée en pension dans des endroits un peu moins faciles et du coup je remercie mes parents pour ça parce que j'étais pas dans un cocon non plus. Enfin ils ont déjà repoussé les limites dès le lycée, dès le collège. J'ai dû m'adapter à diverses situations, donc je pense que ça fait partie de mes qualités aujourd'hui. Encore une fois, une enfance-adolescence géniale. En revanche, arrive le bac approchant, finalement, je me disais que j'avais envie de découvrir autre chose. Et forcément, c'était Paris. Et donc, j'ai quasi pas hésité. En fait, moi, ma trajectoire était assez claire parce que j'ai toujours été fan de mode. Toujours été fan de presse, grande consommatrice de presse. Et encore aujourd'hui.
Tu regardais quoi?
tout, les magazines en règle générale.
Ouais, de mode.
De mode, absolument. Ouais. En fait, mes parents, pour le coup, nous ont toujours, toujours consommé eux-mêmes de la mode, de la presse. Et du coup, on avait la chance de pouvoir aller choisir ce qu'on voulait dans les.
Et c'était quoi? C'est quoi? C'est Vogue? C'était What?
Bah, moi, c'était le Vogue, c'était le L, c'était le L Top Model, c'était. C'était une passion, une fascination, un goût pour ça.
La beauté de la photo.
L'image règle générale. Pour moi, j'étais hyper sensible aux vêtements, encore une fois au textile, aux matières, à comment on s'habille. Enfin, après, je pense que c'est tout le monde à un moment donné passe par là, à l'adolescence, la manière de s'habiller. En tout cas, c'est un sujet. C'est soit on justement décide de s'en passer, soit forcément ça fait partie des sujets. Et c'est vrai que moi, tout ça, c'était naturel et fluide. Donc j'ai pas vraiment hésité, vaguement avec des études d'histoire de l'art et tout ça. Et finalement, un côté très pragmatique, j'ai opté pour une école de mode à Paris. Pareil, une petite hésitation pour stylisme, modélisme ou directement, on va dire, business. Et mon goût, je suis dans l'action, on va dire, naturellement, et j'avais pas la patience, je pense, d'étudier vraiment le stylisme et le modélisme. Je voulais un truc assez immédiat, un plaisir rapide. Et du coup, j'ai étudié à l'ISEM. Et je suis rentrée dans le vif du sujet assez rapidement parce qu'en fait, la grande qualité de cette école, c'était les stages. Ouais. Et je pense que coupler des stages à des études, il n'y a rien de mieux, en tout cas pour quelqu'un comme moi. Et ça a été une formation sur le terrain.
Parce que l'ISEM, c'est la partie école de management de mode de S-Mode.
Tout à fait.
D'accord. Et donc là, tu apprends vraiment le marketing, développement produit.
Ça va de l'aspect purement comptable, droit, histoire de la mode, études du textile en général, de manière un peu plus approfondie des matières et tout ça, cours d'italien, cours de voilà. C'est assez généraliste, mais quand même toujours focus sur le secteur de la mode.
Mais c'est un peu comment il s'appelle, le programme de l'IFM.
Tout à fait, sauf que c'est post-bac, alors que l'IFM, c'est...
Il faut avoir
un petit bagage. Ouais. Exactement. Mais j'ai suivi après le cursus à l'IFM.
D'accord.
IFM Label.
Oui, on va y revenir.
Voilà. Très bien.
Sur le... Donc tes stages, tu les fais où alors?
Alors mes stages, déjà je trouve que quand même ça fait partie de l'école de la vie de savoir décrocher son premier stage. Parce que pour le coup, on a beau être un peu téméraire, quitter le nid familial et tout ça, se retrouver à Paris. Mais pour moi, de décrocher mon premier stage, c'était déjà gravir une première montagne, appeler, démarcher, passer des entretiens. Enfin, j'ai trouvé que c'était hyper formateur. Premier stage, c'est le réseau qui me le trouve et c'était chez Dorothée Bis. Donc c'était la fin d'une histoire monumentale à l'époque, mais donc la fin d'une histoire. Donc c'était pas forcément le stage le plus gai qui m'était donné de faire, mais dans un lieu historique qui est l'actuel emplacement de Hermès rue de Sèvres, dans une piscine. Donc le lieu était fabuleux.
Oui, d'accord, je vois très bien.
Et donc voilà, donc ça c'était vraiment un premier stage rapide. Après j'ai fait des stages de vente. Après, j'ai travaillé chez Chloé à la production. Alors là, pour le coup, pareil, ça m'a permis de gagner vachement de temps parce que je me suis rendu compte que c'était pas du tout pour moi, la production. Beaucoup trop poster, beaucoup trop temps en amont. Enfin, pas moi du tout.
Chez Chloé. Franchement, la production, c'est quand même un métier qu'on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas souvent. Et d'ailleurs, il faudrait que j'interviewe des gens qui sont dans la prod.
Ah bah oui.
Mais c'est quand même le truc le plus dur, quoi. Parce que tu fais toute la merde que les stylistes ne font pas, quoi. Et enfin, tu fais tout le métier, tu rentres dans le produit, quoi. Tu vois?
Pour moi, je suis assez d'accord. À mes yeux, c'est quelque chose d'assez ingrat et très difficile. Ouais. Et pourtant, c'est une des clés de voûte de notre secteur.
C'est ce qui fait que t'as un super produit.
Exactement. Donc pour moi, c'est un sujet extrêmement important, mais qui ne me correspond pas en tant que personne. C'est-à-dire que du coup, déjà j'ai arrêté ce stage, hein, j'ai pas donné suite, mais quand j'ai créé la marque avec Roxane, on s'est réparti de manière hyper naturelle ce sujet-là, et c'est pour ça qu'on était d'ailleurs très complémentaires, c'est que c'est elle qui a pris à bras-le-corps le sujet de la production.
La prod, ouais. Et ça, c'est quand même extraordinaire d'avoir quelqu'un qui s'y intéresse et qui aime ça.
Ah, mais c'est
parce
ça.
Parce qu'il y a des gens qui adorent ça, il faut le dire.
Bah, évidemment.
Voilà. Bien sûr.
Bah, parce qu'en fait, je pense que c'est une passion comme une autre. Hein. Mmh. C'est résoudre une somme de problèmes. Il y a beaucoup de pression, mais à la fois, il y a énormément de satisfaction. C'est un apprentissage permanent, je pense, des rencontres de façonniers. Enfin, je pense qu'en fait, je comprends le goût qu'ont certaines personnes pour ce sujet. Même si ça serait pas, si c'est
non,
pas.
Non, ouais, c'est vrai que moi tout à l'heure je disais, c'est un peu le, c'était ingrat, enfin c'est ingrat, et je disais que c'est le travail que les stylistes ne veulent pas faire, mais il y a des gens qui adorent ça, qui aiment ça et qui vivent que pour ça et qui le font très très bien quoi. Voilà, donc Chloé, non,
donc,
pas de prod.
Chloé, prod. Mais à la fois, c'est hyper important de faire des stages et de se dire, tiens, c'est pas pour moi, parce que ça fait cocher des cases et ça nous fait gagner
beaucoup de
un temps fou. Donc Chloé me propose quand même un autre stage au service commercial, mais en parallèle, je décroche un premier boulot, parce que c'était un stage, mais il se trouve qu'il était très bien rémunéré à l'époque, c'était non négligeable. Donc voilà, et là, j'intègre une structure qui s'appelait... Ouais, j'ai oublié.
Alberta Ferretti ?
Non, en fait, oui, c'était le showroom multimarque, ça s'appelait Next Fashion. Okay. Et donc, c'était un showroom multimarque hyper en vue à Paris, qui avait Helmut Lang, Moschino, Alberta Ferretti, Donna Karan. Bon, bref, pour moi, c'était déjà la mecque, j'étais trop contente. Et là, j'ai appris la rigueur, la vente, de gérer des budgets, tout ça. Donc, une expérience fabuleuse. Et là, pour le coup, c'était mon truc. Là, je vibrais, j'étais en contact avec le produit, j'étais aussi en relation avec les maisons mères. Enfin, j'avais l'impression d'apporter ma pierre à un édifice, donc ça c'était super. Je termine mes études et je pars vivre à New York avec ma meilleure amie de l'école, donc c'était super aussi. Et là je pars chez Donna Karan, toujours au service commercial, et donc là ça ne fait que confirmer, bah en fait, bah voilà, ça c'était très très clair, c'était mon truc. Donc voilà, je décide de rentrer quand même pour parce que j'avais un amoureux à l'époque qui m'a fait rentrer, mais je me suis toujours demandé ce que serait devenu ma vie si j'étais restée à New York, parce que j'ai adoré cette expérience et c'était l'âge idéal pour y être. Voilà, je venais d'avoir 21 ans, c'était voilà la vibration totale, l'énergie folle, bon bref. Et du coup je rentre à Paris. Je termine mes études, soutenance et tout ça. Et à peu près à ce moment-là, Alberta Ferretti décide de créer sa structure en France.
D'accord.
Et du coup, je participe à ce projet. Donc là, un peu une petite... Enfin, c'est presque une première expérience entrepreneuriale parce que c'était scratch from zéro. Donc voilà, j'ai travaillé comme une brute. J'ai adoré ça. J'avais plein de... Enfin voilà...
Mais Alberta Ferretti, enfin ça me dit rien en fait. C'était quelqu'un qui, enfin raconte-nous qui c'est Alberta Ferretti.
Alors Alberta Ferretti, bah voilà, quand j'étais du coup fervente lectrice de cette fameuse presse, et ben il y avait des marques comme ça qui me faisaient complètement rêver, dont D'accord. Alberta Ferretti. Mmh. Les campagnes avec Paolo Roversi, tout ça, c'était, je sais pas, c'était une forme d'idéal comme Donna Karan d'ailleurs. Ah, c'est voilà des marques. On se dit un jour je travaillerai là-bas. Bon bah il se trouve que j'ai coché ces deux cases-là. Et c'était une autre époque, une autre période, mais c'était voilà de l'ultra féminin, du très vaporeux. C'est une marque luxe qui avait également une deuxième ligne qui s'appelle Philosophie. Donc voilà un groupe italien, le groupe AFE, donc Narciso Rodriguez, Moschino, Alberta Ferretti.
Donc là on est au début des années 2000. Hein.
Là on est un petit peu après les grosso modo début 2000. Et donc super expérience, je m'éclate littéralement dans mon job, tout va bien, à tel point que quand ma responsable de l'époque part en congé maternité, il ne la remplace pas, je la remplace, donc là c'est envolée lyrique pour moi. En revanche je vis assez mal son retour, normal, parce que un peu plafond de verre, voilà, donc je décide de partir, j'étais sur le point de partir car j'avais trouvé quelque chose d'autre, sauf que le groupe me rattrape par le col, me fait une super offre financière que je ne pouvais pas refuser parce que quelque part c'était hyper flatteur, mais je pense que c'était une énorme bêtise. Enfin, en tout cas, je pense qu'il faut jamais revenir sur ses décisions et rester pour des questions financières dans un job. Parce que les deux années qui s'en sont suivies, étaient un peu plus, de la frustration. Enfin, je m'ennuyais, quoi. C'était fini pour moi. J'avais tout donné. C'était terminé. à la fois, je pense que sans ces deux années un peu d'ennui à ronronner, il se trouve que c'était pas mon tempérament, je pense que ça m'a empli d'une forme d'énergie, une espèce de rage presque, je sais pas comment dire, c'est quand en fait quand on vous donnait pas suffisamment, enfin quand on vous permet pas d'offrir tout ce que vous avez à offrir, en fait finalement c'est une frustration. Et en tout cas c'est comme quelqu'un qui est fan de sport et qu'on priverait de sport. Pour moi c'est un peu comparable à ça. Mmh. Et du coup bon bah je décide de démissionner. Et c'est ce qui a été le moteur pour créer ma propre histoire. Donc, je m'associe avec Roxane Thierry, mon amie d'enfance. Encore une fois, complémentarité totale. On se lance de manière totalement légère, sans business plan aucun. En fait, c'était un peu jouer notre partie. C'était un âge où, franchement, c'était pas risqué pour nous.
Vous aviez quel âge?
On avait 27 ans. On va dire j'avais 5-6 ans d'années d'expérience professionnelle.
Mmh. Mais c'est quand même c'est boyish quoi. Enfin c'est, je sais pas, je trouve pas le terme, mais c'est très courageux de se dire je me casse
ça c'était courageux parce qu'en plus je dois démissionner. Je tiens à le préciser parce qu'ils veulent pas me laisser partir parce que j'ai pas trouvé ça très voilà.
Ouais. Et puis à l'époque il y avait pas forcément de rupture conventionnelle.
Du tout, non.
D'abandon de poste, voilà. Ce genre de choses, hein, ça n'existait pas.
Et puis moi, je ne pouvais pas. Ouais. En fait, je suis une bonne élève, moi. Ouais. Donc, je ne peux pas faire un abandon de poste. Je ne peux pas, en fait. Je ne pourrais pas me regarder dans
c'est
un
horrible.
Miroir, c'est impossible. Mais il n'empêche que je leur explique qu'il faut que je crée ma structure. C'est un peu un besoin vital, une envie présente, voilà. Et néanmoins, ils ne me suivent pas là-dessus. Et du coup, je démissionne. Donc, c'est vrai que ça, c'était la partie courageuse. Mais pour le reste, créer sa structure, au début, quand on ne se fixe pas d'objectifs réels, pour moi, ça ne demandait aucun courage. Enfin, c'était facile.
Mais vous aviez quoi en tête, là? Parce que vous partez la fleur au fusil.
On s'est dit, alors... déjà, on s'est dit, on s'entend trop bien, on va vivre un truc. Enfin, vraiment, le scénario assez classique de l'entrepreneur qui se... Voilà, de la réalisation. Enfin, en fait,
notre truc, quoi. C'est trop chambé.
Voilà. C'était l'ivresse de lancer quelque chose et de proposer quelque chose. En fait, moi, je trouve que dans la vie, c'est génial de proposer parce que du coup, bizarrement, il y a énormément de choses qui viennent à vous. En fait, il y a une espèce d'échange naturel. Donc, voilà, d'être à l'initiative d'un projet, je trouve que c'est extrêmement enrichissant. Donc, on y va. On choisit un secteur bien précis, bien pointu, parce que pour le coup, on le fait de manière légère, mais on a quand même les pieds bien ancrés dans la réalité. Et on se dit, on va pas faire de la femme, enfin, le truc qui veut absolument rien dire. Donc, on se dit, on va faire la femme sur la plage, à la plage, sur son lieu de vacances, et on va l'habiller complètement, mais dans ce cadre-là. Donc, c'était hyper ciblé, voilà, ficelé. Donc, on choisit ce segment-là, en dehors de tout calendrier, parce que le calendrier de l'époque n'était absolument pas celui-là. Mais moi, qui venais du luxe et tout ça, j'entendais parler en permanence d'un salon qui était le Tranoï, qui à l'époque était vraiment le rendez-vous. En dehors des grandes maisons, c'était le salon de référence international de jeunes designers, de jeunes talents et tout ça. Donc, on fait notre petit mood board, on fait un petit plan de collection, on rencontre quelqu'un quand même, on lui raconte un peu pourquoi on fait ça, parce qu'à l'époque, il y a plein de gens qui s'interrogent, qui nous disent qu'on est complètement malade. Et il y a une première personne quand même qui nous voit et qui nous dit, les filles, vous êtes gentilles, mais en fait, il y a un énorme décalage entre ce que vous me montrez et votre discours. Votre discours, je le trouve intéressant. On avait décidé donc de faire des maillots de bain urbains, ce qui veut un peu rien dire. Mais à l'époque, on trouvait que ça avait vachement de sens, parce qu'en fait, on voulait éviter déjà tout type de plastique et autres. Donc, en fait, c'était des bijoux. On avait développé une attache avec une amie joaillière et tout ça. Il n'y avait aucun plastique. Enfin, c'était pas dans une démarche tellement éco-responsable, parce que c'était pas du tout le sujet de l'époque, mais c'était des goûts, en fait. On voulait que ces pièces aient du caractère. Pareil, la palette de couleurs n'était pas du tout la palette habituelle des filles à la plage. Il n'y avait pas de turquoise, de rose. Enfin, c'est un peu cliché, mais en tout cas, on était plutôt sur des tons assez particuliers. Donc, voilà, on avait une approche un peu...
Est-ce que c'était du coton?
Il y avait de tout. Il y avait des jerseys de coton, donc du t-shirt détourné, des attaches avec des piercings et des choses comme ça. Ou sinon, c'était des matières classiques, parce que malgré tout, le milieu du bain, c'est quand même assez compliqué. Et du coup, on avait un peu de tout. On avait travaillé également avec Liberty, donc des maillots de bain en coton. On avait vraiment une offre assez bien ficelée. Mais bon, en tout cas, voilà, on lance ce projet. Le salon normalement pour le maillot, c'est le salon à l'époque qui s'appelait Lyon Mode City, sauf qu'on ne veut pas le faire. On veut le Tranoï et rien que le Tranoï. Donc on prend rendez-vous avec eux. Ils nous disent, mais vous êtes gentils, c'est bouclé depuis des mois, mais vous croyez quoi? On arrive à les séduire. Ils nous font de la place sur le salon. Ils nous postent derrière le stand de sandwich au sous-sol. Mais à la fois, franchement, on était, mais pour nous, c'était le Graal. Déjà, c'était un premier pas. C'était fou comme ce genre de petite victoire, vous galvanise.
Et ça, en plus, il faut expliquer peut-être à l'époque, c'est vrai que le Tranoï, donc derrière Tranoï, c'était les Adidas, les fondateurs du concept store, l'éclaireur, etc. Et à l'époque, quand on était au Tranoï, c'était hyper positionnant. Parce que là, les acheteurs du monde entier, les meilleurs acheteurs du monde entier, allaient au Tranoï. Et là, ils se faisaient plaisir et ils achetaient. Et donc, être là, c'était déjà une
première victoire. En fait, c'était validé, une première étape.
C'était comme si tu rentrais chez Colette.
Mais complètement.
C'est pareil, quoi.
Ah, mais non, mais on est ressorti de ce rendez-vous quand elle nous a dit « Laissez-moi en parler avec Mickaël » et tout ça, et qu'elle nous a rappelé pour nous dire « C'est bon, je pousse les murs et je vous trouve une place. » Mais on a hurlé de joie.
Mais c'était comme des dingues.
C'était, voilà.
Parce que là, vous faisiez votre saison, quoi. Grosso modo, c'était le pied à l'étrier.
En tout cas, on était au bon endroit. Donc après, il fallait en faire quelque chose. Ouais. Mais si ça marchait pas, en tout cas, il y avait pas d'excuses là-dessus. Ouais. Donc voilà. Après, dans les principes de départ, en fait, de la marque, vu qu'on était hyper sensible à l'image, il y a eu la photo. La photo, parce que d'entrée de jeu, nous, on préférait communiquer par le biais d'images plutôt que de longs discours. Mmh. On trouvait qu'il y avait rien de mieux pour raconter une histoire que l'image. Du coup, on fait un premier shooting avec Léa de Havrin, qui est une mannequin hyper connue de l'époque, qui était la fille de copain de mes parents, parce que voilà, le réseau aide aussi dans ce genre de cas.
Ouais.
On fait un premier shooting, mais qui ne nous correspond pas. Donc, on était un peu frustrés et tout l'été, on avait harcelé Thierry Lebrali pour qu'il accepte de travailler avec nous. C'était une copine qui nous avait parlé de lui et on avait vraiment, on s'est dit, c'est lui, en fait, c'est lui, ce sera personne d'autre. Donc, on le harcèle toutes les vacances. Il refuse parce qu'il était en road trip à moto en plein mois d'août et tout ça. Donc, on fait ce shooting, on n'est pas complètement satisfait.
Pourquoi
voilà.
Vous n'étiez pas satisfait?
Parce qu'en fait, avoir la bonne mannequin, c'est génial, mais il y a plein de bons photographes certainement, mais en fait, il y a une symbiose, il y a une alchimie qui doit opérer. Et si c'est pas le cas, c'est impossible de rectifier le tir. Je sais pas comment dire, c'est impossible. On avait beau dire non, pas comme ci, comme ça. En fait, c'était difficile de traduire ce qu'on avait dans la tête. Et quand bien même lui imaginait avoir capté, en fait, c'est tombé à côté. Donc en fait, on fait un premier shooting, on n'en était pas hyper fiers. Et du coup, Thierry nous rappelle quand même, parce qu'il avait été quand même...
C'est lui.
Peut-être séduit, en tout cas intrigué par notre ténacité, notre persévérance à l'appeler tous les deux jours à tour de rôle. Et donc on lui dit, un peu déçu tout ça. Et du coup, on rectifie le tir, on fait des Polaroids chez nous, on shoot et on met en scène chacun de nos maillots façon défilé avec une petite, vraiment comme la préparation d'un défilé. Et je pense que ça fait partie des sujets en dehors du Tranoï qui nous ont aidés à percer dès la première saison.
C'est l'image ?
Ouais, l'image.
Mais c'était avec le photographe que vous vouliez ? Ou c'était
Booké. Du coup, c'est Thierry qui a rattrapé le coup.
Il est venu.
En fait, il est venu compléter. Et ça a été une rencontre professionnelle à la base. Et dans les particularités de Rosanna, c'est qu'on travaille maintenant avec Thierry, qui est donc mon mari et père de mes deux enfants, depuis la création de la marque. Et je pense que, il a joué un rôle énorme dans l'identité visuelle, parce qu'on est extrêmement fidèle au message premier.
Depuis, c'est lui qui fait toutes les images.
Toutes les images, d'accord. 100%.
Et tu peux nous expliquer un peu plus, parce que je pense que là, tu racontes du chinois pour beaucoup de gens.
Ah
tu
bon
vois. Non, mais parce que comprendre l'importance du photographe, quand tu dis, et je te rejoins et je suis complètement aligné avec toi, que c'est bien d'avoir le bon mannequin et la bonne idée, mais si ton photographe, t'as beau avoir un bon photographe qui sait prendre des bonnes photos, ça marche pas, tu vois. Mais comment tu peux l'expliquer de façon plus pédagogique?
Je pense qu'il y a, pour le coup, il faut faire confiance à son instinct et à ses goûts. En fait, il faut écouter personne d'autre que soi-même pour ce genre de sujet, parce qu'en fait, un bon photographe pour une personne peut ne pas correspondre à une autre marque. Donc, nous, en fait, quand on nous a parlé, en l'occurrence de Thierry, on a été sur son site à l'époque, il n'y avait pas d'Instagram du tout. On s'est dit, mais c'est exactement ce qu'on a en tête. En fait, ni plus ni moins, on cherchait juste à retranscrire ce qu'on était nous. Donc pour moi, bien choisir un photographe, c'est d'être fidèle à ce qu'on est, au message qu'on veut.
Et à ce que t'aimes.
Voilà, c'est, pour moi, du coup, ça me semble très simple. Je pense que c'est compliqué quand peut-être les gens ne savent pas, justement. Et alors là, du coup, ils changent de direction.
Ouais,
c'est ça.
Et ouais. Mais et c'est comme demander la vie à plein de gens. En fait, il y a un moment, si tu demandes trop la vie aux gens, t'as plein d'avis différents, quoi. Alors que si tu sais ce que tu veux exactement, c'est peut-être plus
simple. Moi, pour le coup, je continue de demander l'avis de beaucoup de gens sur plein de sujets. Mmh. Ça veut pas dire que j'applique tout, mais ça me permet de réfléchir. Et je trouve que pour prendre de bonnes décisions, bah, y a rien de tel qu'échanger. Mmh. Donc, je prends pas pour argent comptant, mais je pense que ça fait partie des aides quand même à prendre l'expérience des autres, la vie des autres, parce que si on réfléchit seul, voilà, ça, je pense pas que ça donne grand chose de bon.
Ouais, je suis d'accord. Donc revenons au Traneuil. Donc là, c'est carton plein grâce au photographe finalement.
On va remercier Thierry. Clairement, il y a un alignement d'une collection, de notre association avec Roxane, ce salon qui croit en nous. Moi, j'avais quand même un réseau de clients qui m'avaient dit, quand j'avais quitté ma boîte, on te suit, ce qui est quand même hyper sympa. Et c'est des gens qui ont tenu leur parole et qui sont encore clients aujourd'hui. C'est ça qui est assez fou, c'est qu'il y a beaucoup d'affect en fait. On a un socle de clients hyper solide et quand même un certain nombre de clients qui n'ont jamais fait l'impasse sur une collection depuis la création de la marque. Et ça, je pense que c'est aussi une chance extraordinaire. Donc voilà, donc premier salon, on fait 50% de vente en France, 50% à l'international. Donc là, on est propulsé, en tout cas, porté par ça. Pareil, c'est l'éclate au quotidien. La fin du salon, on est désespéré tellement on a aimé ça. Enfin, c'était comme première super aventure. Et donc là, on s'était absolument pas projeté au-delà, hein, quand même.
Ouais, ce qui est bien. La prod, on verra plus tard. Quoi.
La prod et même la suite. En fait, pour nous, ça aurait pu être un one shot. C'était pas grave. Il fallait le vivre. Donc voilà. Mais là, c'est là que moi, j'adore l'univers du wholesale et tout ça, parce que j'imagine que ça va être des sujets qu'on va aborder. Mais parce que l'échange avec des professionnels du secteur qui vous choisissent parmi tant d'autres quand vous êtes justement en dehors de tout type de calendrier. Bon, déjà, ça vous donne une énergie folle, mais surtout, c'est eux qui vous disent, avant même qu'on y réfléchisse, mais vous vous proposez quoi cet hiver, en fait? Eh ben, on n'avait pas encore réfléchi à ce sujet. Et du coup, naturellement, on dit, de la lingerie. Et ils disent, très bien, on vous suit. Et donc, en fait, on avait quelque part la garantie d'avoir déjà des gens qui nous accompagnaient là-dessus, alors on n'en avait même pas discuté. Et de fil en aiguille, on s'est dit lingerie, oui, mais donc lingerie un peu de prêt-à, parce qu'on va pas se cantonner qu'à ça, vu qu'on voulait pas être institutionnel ni de la lingerie, ni du maillot. Nous, on s'est toujours positionné. Si on a choisi le Traneuil, c'est qu'on était un accessoire de mode. C'était comme ça qu'on pitchait notre marque, on va dire. Et du coup, on s'est dit, de la maille, et on a fait évoluer vers un univers un peu loungewear, au moins genre la journée d'une femme chez elle, et une lingerie hyper affinée qui se verrait comme un accessoire de mode. On restait un peu sur cette ligne de conduite. Et donc voilà un peu le début, le lancement de Rosana. On demandait des acomptes pour ce qui était du financement, parce qu'on a quand même créé la boîte avec 3 francs 6 sous.
Ouais. Et sans salaire en plus.
Et sans salaire. Et en plus, rien que le premier salon avait absorbé à peu près l'essentiel de ce qu'on avait mis
de côté.
Donc en fait, on a réussi à s'autofinancer comme ça.
Donc là, à l'époque, ils donnaient encore des acomptes.
Mais encore aujourd'hui.
Ah ouais?
Mais bien sûr.
Ah, mais t'as de la chance, toi.
Non, alors en fait, ça évolue, mais en tout cas, je trouve qu'il n'y a aucun mal à justifier le fait que quand on ne se connaît pas encore, on demande un acompte et qu'évidemment, on est ouvert à toute discussion après une première saison. Après, tout est négociable, mais nous, il y a encore des clients qui payent des acomptes. Ouais. Je ne pense pas que ce soit une époque complètement révolue.
Je ne sais pas, mais c'est quand on en parle avec peut-être des plus jeunes designers. Et hier, j'étais typiquement à Lille autour sur une table ronde et on parlait beaucoup de distribution. T'as le sentiment qu'aujourd'hui, les department stores et même les retailers, ils ont quand c'est un jeune, ils te disent, il faut qu'on partage un petit peu le risque. Mais j'ai l'impression que le risque, il est plutôt partagé par le designer, quoi. Et que les acomptes, tu sais, il y a beaucoup des histoires aussi de zéro acompte ou de, je sais plus comment on appelle le terme, mais tu laisses ton stock en magasin et si c'est pas vendu, tu le récupères.
Alors ça, tout ça, c'est tous les pièges à éviter à mon sens. Hein. Ouais. Pour le coup, encore une fois, nous, on a créé notre boîte, en tout cas, on avait déjà un petit bagage qui faisait que ce genre de choses...
Vous ne tombiez pas dans le panneau.
Jamais de la vie. On n'a jamais accepté une seule fois du conditionnel. Sauf cas méga exceptionnel d'un retard de prod où on acceptait que le sol soit laissé en conditionnel. Mais sinon, pour moi, c'est pas faire du tout, en fait.
Ouais, mais ça, c'est des erreurs de débutants où on se fait bananer et je trouve que c'est pas très fair play de la part des department stores et des retailers de jouer à ce jeu-là avec les petits.
Et puis, de toutes les manières, en fait, quelque part, c'est un écrémage naturel. Se dire qu'un partenaire veut débuter de cette manière-là, ça présage rien de bon, je pense. Donc, il faut être ferme au début et pour moi, il faut aussi expliquer, justifier. Enfin, quelqu'un qui vous choisit, il y trouve son intérêt. Donc, il n'y a pas de raison que seule la marque prenne tous les risques.
C'est
après,
clair.
Il peut y avoir une souplesse sur le sol. Enfin, il y a toujours moyen de trouver un terrain d'entente. Hein.
Et tu peux nous dire, Roxane, en deux mots, qu'est-ce qu'elle a fait avant ?
Alors, elle a participé à la création de Bash.
D'accord.
Du coup, vraiment, start from zero aussi. Donc, en fait, quelque part, on avait toutes les deux vécu deux expériences proches de l'entrepreneuriat.
D'accord.
Donc, c'était vraiment...
Et elle, sur la partie plutôt développement produit ?
Alors, sur la partie développement produit, mais prod aussi, parce qu'en fait, elle était, au début, elles étaient trois, quoi, avec Barbara et Sharon.
Donc elle a tout vécu aussi.
Donc voilà, et d'ailleurs, dans les sujets, je trouve hyper important, c'est la bienveillance de Barbara et Sharon au moment où on leur explique que, déjà, moi, je les connaissais comme ça, parce que je passais de temps en temps les voir. Et je suis hyper admirative, non seulement de leur parcours, Barbara et Sharon, mais je pense qu'elles ont une capacité à bien s'entourer et à transmettre une bienveillance à tout le monde. C'est complètement fou. Nous, quand on leur a dit on va lancer notre marque, elles auraient pu voir ça d'un mauvais œil. Mais au contraire, elles se sont limite décarcassées pour nous aider. Enfin, je trouve que c'est rare de nos jours de rencontrer ce genre de personnes. Donc,
je les rencontre bientôt, je crois.
Ah bah ouais, très bien.
Et... Mais moi, j'avais pas conscience du. Vous aviez quand même un bagage qui était quand même hyper solide, mine de rien. Tu dis qu'on.
Je pense qu'on avait quand même. On était un peu armés sur la partie créa, prod, commercial. C'était OK. Finance, compta et tout. Il y avait un gros trou dans la raquette. Hein. Ouais. Donc, il y a mon frère qui nous a rejoint très rapidement et qui nous a aidés là-dessus.
D'accord. Très bien. Raconte-nous un petit peu les évolutions après. Comment ça grandit, comment ça grossit. Une question que j'aime bien poser, et je la pose tout le temps, c'est comme ça. C'est quels sont les différents milestones finalement de Roséana ? Quelles ont été les grandes étapes et à chaque fois les paliers que vous avez réussi à passer au fur et à mesure ?
Alors, évidemment, il y a la phase de la création. Qui se passe encore une fois hyper bien. On grandit, on fait un premier bond la première année, on double chiffre d'affaires la deuxième année. Donc c'est une période moi que j'ai trouvé relativement facile, quand bien même évidemment quand on a essuyé quelques tempêtes avec des sujets de prod notamment qui vous créent des ulcères, mais qu'on apprend à gérer.
C'est quoi alors ? Est-ce que tu as des best practices sur la prod justement ?
Je pense. Alors, moi, prod, encore une fois, pas mon sujet de prédilection. Maintenant, je pense surtout ce qu'il faut, c'est ne pas se laisser envahir par cette vague et cette lame de fond. Parce qu'au début, quand on est un peu jeune et tout ça, le moindre grain de sable dans le rouage, on a l'impression que tout est terminé.
C'est quoi un grain de sable ? C'est quoi comme grain de sable ?
Le grain de sable, c'est un énorme problème de prod. On reçoit une prod avec, l'inversion du coloris, d'une finition, machin, les boutons qui tombent tous, une ligne de maille qu'on avait fait tricoter à la main par des grands-mères en Italie qui arrivent avec un trou parce qu'en fait, elles n'avaient pas suffisamment mis de tension à un certain endroit, donc il faut tout repriser. Enfin, c'est des moments où on se dit, en fait, c'est du sabotage, en fait, parce que. On est un peu démunis, en fait, on se relève les manches, on trouve des solutions, on se fait des petits nocturnes. Et puis voilà, en fait, je pense que ce qu'on a appris, c'est que, quand il y a un problème, il y a forcément une solution. Ça semble d'une évidence sans nom, mais ça sert à rien de se laisser abattre. Tu sais, il faut pas se laisser emporter, il faut réussir. S'il faut aller marcher un quart d'heure ou faire un break de 2 minutes, prendre de la hauteur et y retourner. Parce qu'à la fin, tout ça n'est quand même pas si grave. Donc, réussir à relativiser un peu. Parce qu'à la fin, on a toujours trouvé des solutions. Ouais. Et puis, voilà.
Mais il y a eu des moments de danger, enfin, où vous mettiez en danger, vraiment, sur...
Oui, parce qu'en fait, nos clients, pour le coup, sont n'ont pas à subir des sujets qui, quelque part, ne les concernent pas, comme des retards de prod, des problèmes de fitting, des problèmes, voilà, parce que c'était ça, surtout, nos grands sujets. Après, les autres écueils, je pense, c'est vraiment le BFR. Savoir évaluer et anticiper suffisamment ce genre de sujet. Donc ça, c'est vraiment les sujets, en tout cas nous, qu'on a des qu'on a pu traverser.
Ouais, que vous n'avez pas anticipé. Grosso modo, en deux mots, c'est de dire ok, on fait un super salon. Il se trouve qu'on en vend pour 300 000 euros de vêtements et de marchandises et que tu n'as pas forcément la trésorerie pour avancer la prod.
Bah c'est ça le sujet. Et après, je pense aussi, il faut toujours essayer d'anticiper et pas penser court terme. Et pourtant, ce n'est pas évident, mais il faut bien calibrer les besoins parce que sinon, c'est tous les 4 matins qu'on se repose la même question. Donc ça, c'est... Nous, on en a fait les frais, c'est pas...
Ouais, vous êtes arrivé à un moment où vous n'aviez pas l'argent pour lancer les prods.
Bien sûr, financer la croissance, ça a l'air hyper positif sur le papier, mais c'est un vrai sujet.
Et comment vous êtes débrouillé?
On a fait 3 levées de fonds en 10 ans,
okay.
Tout simplement.
En faisant rentrer des investisseurs.
Tout à fait.
Et jamais par la banque ou par la BPI ou
La banque, pour le coup, maintenant, ils nous accompagnent, mais à nos débuts, c'était même pas une question. En fait. Déjà, ils voulaient même pas qu'on ouvre notre compte. Non, il n'y a aucun soutien à l'origine. Ils avaient eu pas mal de casseroles, je pense, dans le secteur. Donc, très difficile de les convaincre.
Et tu es parti sur une banque lilloise, peut-être, non?
Et du coup, oui, tout à fait. Ouais. Bizarrement, ils ont accepté à Lille, mais pas à Paris.
D'accord.
Donc voilà, mais il n'était pas vraiment question d'emprunt, il n'était pas question de crédit de campagne, il n'était pas question d'une prise de risque véritable. Donc on a fait rencontrer un investisseur particulier la première fois, donc il a pris des risques, qu'il n'était pas du tout du secteur. Business angel, mais quand même avec une casquette financière qui nous a bien fait évoluer sur
progresser,
cette partie-là et progresser. Et seconde levée de fonds avec la BPI. Qui est entré au capital en 2015 et donc là qui nous a permis de nous structurer, de participer à l'ouverture de la première boutique, parce que ça c'était des vrais sujets aussi dans les milestones. Dans les milestones, il y a le lancement du e-shop, il y a l'ouverture de nouveaux marchés avec des distributeurs et il y a la première boutique brick and mortar.
Il y a tellement de sujets là. Revenons peut-être au premier investisseur. Je trouve que c'est vachement intéressant d'aller creuser un petit peu ça, parce que le premier investisseur, mine de rien, en plus c'est un gars qui n'est pas du secteur forcément, pourquoi vous le choisissez lui? Combien vous lui donnez? C'est quoi le deal, quoi?
Alors, déjà, comme on n'anticipait pas bien les sujets de financement, en fait, ça s'est fait très, très rapidement et on a eu peut-être de la chance, c'est encore une fois le réseau. On en parle, on prend un verre avec un copain qui nous dit « laisse-moi te présenter mon boss ». Le boss dit « ok, je vais mettre des billes dans votre histoire, ça me plaît. Est-ce que je peux en parler à mon conseil financier ?» Le conseil financier nous rencontre, on passe 2 heures dans les jardins du Palais Royal, on se dit « ok, ça a l'air de s'être bien passé ». Il nous dit « est-ce que vous me permettez d'en parler ?» à une personne, et cette personne, ça a été le principal actionnaire qui est rentré au moment de cette levée de fonds. Sinon, on avait du friend and family, love money, tout ça, symbolique, mais il y en avait un vraiment. Et donc, ça s'est fait quelque part assez rapidement en 3 rebonds. On n'a pas... Déjà, on avait peu de temps à consacrer à ça. On courait après le temps, parce que c'est quand même... le sujet du temps, c'est hyper chronophage, notre activité. Donc, on n'avait pas le luxe de toutes les manières de faire des investissements.
Tergiverser pendant 3 ans, ouais.
Et puis voilà, ça s'est fait assez facilement.
Et c'était quoi les montants, tu te rappelles?
C'était un investissement en 2 temps, mais avec un premier tour de table de 300 000 euros, mais qui nous permettait quand même de...
C'est une sacrée somme quand même.
En fait, ça dépend, avec quoi on le compare, mais en effet, à l'époque, c'était super, et surtout, on était à J+3 ans, donc quand même encore hyper fragile. Enfin, je veux dire, c'était une vraie prise de risque de sa part.
Et il prend combien dans la boîte?
Il prend à peu près 20%.
20%, ouais. Ce qui est énorme.
Alors là, pour le coup, moi, j'ai aucun sujet avec ça. En fait, la grande expression, il vaut mieux avoir une petite part d'un beau gâteau que... Ouais. Aucun sujet de propriété sur Rosanna. Enfin, je sais pas comment dire. J'ai un rapport assez étonnant, c'est que je suis fan de ce projet, mais à la fois j'ai aucun problème à
partager.
Ah ouais, mais complètement.
Ouais. Mais et un autre sujet qu'on n'a pas abordé, c'est quand t'as cofondé ça avec, avec Roxane, comment vous partagez? Vous faites 50-50, non?
Tout à fait.
Ouais,
à ah bah aussi quoi. Simple que ça. Ouais. Hein. Tout était d'une transparence absolue, ouais. d'une égalité absolue, pour essayer justement d'éviter tout sujet à ce niveau-là, parce que c'est compliqué une association, forcément.
Et comment on... Comment vous... Alors, tu nous expliquais tout à l'heure, mais comment tu répartis les tâches entre toi et Roxane? Donc, elle est plutôt sur la prod, toi, t'es plutôt sur le style.
Non, en fait, le style, on le fait vraiment toutes les deux. Pour le coup, d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle Rosanna, c'est nos deux surnoms à coller. C'était vraiment... On crée une troisième personne qui nous représentait toutes les deux. C'était ça, l'idée. Et voilà, après, comme pas mal d'entrepreneurs, je pense que finalement, la partie créative occupait 20% de notre temps. Ouais. Et tout le reste, on était absorbé par de l'administratif, de la gestion pure, la prod, le commercial, enfin bon, bref. Et du coup, on s'est réparti très rapidement, en effet, de manière hyper claire, prod pour Roxane et moi, commercial, relations presse, ce genre de choses.
D'accord. Et vous vous faites accompagner ou est-ce qu'il y a des gens qui vous rejoignent très rapidement dans l'aventure?
Oui, mais alors vraiment, au début, on a constitué l'équipe avec des gens qui venaient nous filer un coup de main. Et en fait, le coup de main, en fait, on se rend compte qu'on peut plus s'en passer. Et puis voilà, après, on prend un premier bureau parce qu'à la base, on a quand même créé la boîte. On était dans mon appart. Hein. On a quand même reçu le printemps à l'époque dans mon appart parce que c'était en dehors du salon du Traneuil, le fameux. Donc, on prend nos bureaux. Quelqu'un, alors j'avais quand même une première stagiaire, une copine, c'est assez rigolo, qui m'a aidée sur nos débuts. Et en fait, on a constitué l'équipe, au fil de l'eau avec des gens qui, bienveillants, qui nous rejoignaient parfois gracieusement comme ça et qu'on embauchait et ça a été à chaque fois de belles histoires. Donc, ouais, des vraies rencontres, une équipe super au fil des années qui s'est constituée.
C'est marrant, parce que dès que tu fais quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a toujours des gens qui viennent te prêter un coup de main, quoi.
Bah ouais, mais parce qu'en fait,
ça, c'est fou,
je pense que c'est galvanisant, cette expérience, que c'est excitant pour pas mal de monde. En l'occurrence, une de nos premières salariées, c'était quelqu'un qui changeait un peu, c'était un peu une reconversion, et du coup, quelque part, elle y trouvait son compte, et en fait, c'était une aventure humaine, on s'est éclaté, puis on pouvait plus se passer d'elle. Donc en fait, ça démarre un peu comme ça.
Elle faisait quoi, elle, par exemple?
Elle était dans l'événementiel à New York et elle est venue nous prêter main forte, mais sur plein de petits sujets. Et après, c'est elle qui a pris la prod, qui a vraiment aidé Roxane sur cette partie-là.
Et explique-nous un petit peu l'évolution de la marque, parce qu'au début, tu as quand même une envie, une folie et un feu qui est vachement intéressant. Mais après, comment ça devient une vraie marque, tout ça?
Ça se fait chez nous, en tout cas, de manière hyper progressive, hyper naturelle. Bien maîtrisé, parce qu'en fait je pense qu'on est quand même un peu contrôle fric dans l'âme, et du coup on s'aventure petit à petit sur tous les terrains, mais il n'y a pas un produit qui est vraiment là par hasard, et du coup on opère une bascule naturelle vers le prêt-à-porter pur. Je dirais que au bout de la 3e ou 4e saison, on devient une marque de prêt-à-porter, on va dire. Petite, hein. Je veux dire, c'était une collection resserrée, mais juste.
Ça veut dire quoi?
Resserrée, ça veut dire pas forcément un fleuve, pas forcément essayer de plaire à tout le monde, assez, forte en tout cas, qui, sans compromis, donc, t'aimes ou t'aimes pas, mais en tout cas, quelque chose d'assez précis. Je veux dire, on n'a pas fait du jour au lendemain des collections de 200 ou 300 pièces. Ça s'est fait au fil de chaque collection. On venait enrichir de nouvelles catégories de produits, un nouveau fournisseur, un nouveau savoir-faire. Enfin, ça s'est fait vraiment au fil de l'eau, mais sans coup de volant. Vraiment.
Donc au début, vous partez avec 20, 30, 40 pièces.
Ouais.
Et au fur et à mesure, vous rajoutez.
Tout à fait.
Et t'as ce qu'on appelle c'est pas les crossovers, c'est les carryovers.
Ouais, alors ça, c'est arrivé, il y a 2 ans, même pas.
Ouais, ce qu'on appelle les carryovers.
Nous, on était que dans la nouveauté.
D'accord.
Non, en fait, c'est pas ça, c'est qu'en fait, nous, on s'adressait donc à vraiment, encore une fois, on est une marque wholesale à la base. Hein. Mais alors vraiment des purs, durs modèles wholesale, parce qu'on connaissait que ça, parce que c'était une autre époque et parce qu'on n'avait pas forcément de volonté différente, même si maintenant je m'éclate dans le retail, mais c'est hyper frais finalement par rapport à l'histoire de la marque. Et du coup, pour séduire, c'est wholesaler par rapport à une concurrence féroce Bah nous, notre angle, c'était la nouveauté, la fraîcheur, l'amusement. Donc en fait, on proposait des collections, je pense, rafraîchissantes pour des clients qui faisaient du business, peut-être pas avec nous, je veux dire, on n'était pas le tiroir caisse des boutiques qui avaient certainement des marques beaucoup plus commerciales que nous. Mais du coup, nous, on jouait l'image, la fraîcheur, l'amusement. Et c'est ce qui a permis, je pense, de fidéliser à ce point des clients depuis le premier jour.
C'est toujours rafraîchissant, nouveau.
Ouais, voilà, c'est ce que nous disaient nos agents. Ils arrivent, ils s'éclatent dans la pièce. Quoi. Alors parfois on les déroute, parfois ils se demandent ce qu'on a imaginé, si on a fumé en faisant cette collection, ils étaient parfois déroutés, mais en tout cas ils s'ennuyaient jamais. Il n'y avait pas un côté je vais renoter comme d'habitude des valeurs sûres, parce que chez nous pour le coup il y avait quasiment donc zéro carry-over. Enfin, j'exagère un peu parce qu'évidemment on avait un modèle de maillot institutionnel, une maille un peu machin, mais la réalité c'était que 90% c'était de la nouveauté.
Carry-over, c'est vraiment, peut-être pour les gens qui savent ce que c'est et qui parlent pas anglais, c'est vraiment une pièce qui revient toutes les saisons.
Ben voilà.
C'est un best-seller, c'est quelque chose qui fait partie de la garde-robe de Rosanna.
Ben voilà, et ça c'est né en fait il y a 2 ans chez nous avec le retail, je dirais. Donc c'est tout frais. Moi j'en suis ravie parce qu'en fait le retail, donc là il y a une nette accélération pour nous de ce côté-là, puisque on compte 7 boutiques, enfin presque, parce qu'il y a une boutique qui ouvre demain, rue de Grenelle, qu'on a ouvert une autre boutique dans le 16e en juillet dernier, et qu'on est sur le point d'ouvrir à Lyon. Donc il y a vraiment une accélération là-dessus, plus les grands magasins où on a deux corners qui sont nos boutiques dans les grands magasins, donc Bon Marché, qui est un partenaire historique, et les Galeries Lafayette. Le retail, en fait, impose de nouvelles règles et qui, du coup, pour moi, c'est nouveau, donc forcément, c'est excitant. Et ça me permet de sortir, justement, de cette course effrénée de la nouveauté. Parce que la nouveauté, c'est génial, mais pour le coup, j'aime bien aussi l'idée de venir insérer quelques classiques, que pour moi, une garde-robe, elle n'est pas que composée d'imprimés, de jacquards, de dentelles et tout ça, parce que nous, c'est ce que les clients venaient chercher chez nous et attendaient de nous. Mais du coup, je suis super contente parce que ça me permet de développer un vestiaire en introduisant des basiques, des unis. Quand même, il y a toujours une recherche avec des matières particulières, des coloris particuliers, des imprimés exclusifs. Hein. Tout ça n'est pas remis en question. Mais en revanche, c'est un nouveau terrain de jeu pour moi parce qu'on peut parler de notions de basique aussi. Et voilà, en fait, c'est comme ça que je m'habille au quotidien.
Et c'est qui la femme Rosanna ?
Alors la femme Rosanna, nous, à l'époque, on disait que c'était nous et nos copines. Hein. C'était assez naïf, mais c'était comme ça en tout cas.
Mais tu faisais tes vêtements pour toi en même
temps. Oui. En fait, moi, j'ai toujours été ma première cliente dans le processus créatif. Donc voilà, pour nous, c'est une femme. On l'imagine urbaine, on l'imagine curieuse et assez audacieuse parce qu'en effet, on est une marque assez quand même loin d'être minimaliste. Il y a quand même une recherche de matière qui fait qu'a priori, ça c'est une sensibilité qu'a la femme Rosanna. Donc voilà, on imagine des femmes actives et on pense à leur confort, à leur bien-être. Donc voilà, je dirais que la femme Rosanna, c'est une femme multiple qui sait aussi bien s'habiller d'ultra féminin mais contrebalancer avec du masculin, jouer avec quelques codes plus sportswear. Enfin, ça, c'est depuis la jeunesse de la marque. On a un vestiaire qui n'est pas que féminin ou que, qui est multiple.
Et sur la dimension distribution, tu disais tout à l'heure, tu as fait le Tranoï, mais tu parlais d'agents aussi, de distributeurs, d'agents. Comment ça marche ? Racontons un peu ça.
Alors, comment ça marche ? Encore une fois, des rencontres. En fait, c'est sur le Tranoï, tout simplement, toujours, que notre première agence présente à nous, le showroom Valentine et Thomas Dufour, qui est un super showroom parisien avec qui on a grandi donc quasiment depuis nos débuts, qui a participé au fait que le marché français soit notre premier marché. Nous, ça a toujours été une fierté pour nous parce qu'en fait... Je trouve génial d'être une marque française qui s'épanouit sur son propre marché. Je dénigre pas ceux qui s'épanouissent ailleurs, mais en fait, pour moi, ça aurait été étrange d'être une marque française qui s'épanouit que en Asie ou que aux États-Unis. Enfin, quelque part, ça voudrait dire qu'on s'était trompé sur quelque chose, puisqu'on crée quelque part pour des filles comme nous. Enfin, pour moi, c'était essentiel d'être forte sur ce marché-là. Donc c'est encore le cas aujourd'hui parce que malgré la croissance, la France représente encore à peu près 45% du chiffre d'affaires,
c'est
donc
énorme.
C'est énorme.
Et puis c'est quand même tu vois tes vêtements dans la rue, quoi.
Ah bah c'est ça.
Non, mais c'est ça qui est
cool.
Ah,
mais c'est une énorme satisfaction.
Ah, ça, c'est le gros kiff. Parce que quand tu vois, je pense souvent à des maisons de luxe, tu vois. Quand on parle de Balenciaga, par exemple, tu te dis, mais comment ils peuvent faire 1 milliard d'euros, ces gens, quand tu, enfin, il y a personne qui les porte. Et en fait, c'est consommé en Asie, quoi, tu vois. Et t'en croises jamais. Et je me dis, ça doit être hyper frustrant pour les designers.
Ah oui, non, mais nous, c'est sûr qu'on a la chance de les voir un peu partout, pas mal dans le quartier en plus.
Bah, surtout dans le dixième, là, t'es en plein dedans, là.
Donc non, moi, j'adore. Alors, l'idée principale, c'est déjà, j'adore voir nos pièces et je m'en lasserai, je pense, jamais. Ça sera toujours un petit plaisir.
Qu'est-ce qui se passe? Alors, raconte-nous ce moment où tu croises une pièce.
Une petite vibration. Ouais. Ah bah déjà, j'ai un radar intégré, donc je la détecte à peu près à 400 mètres facilement. Et après, ça m'amuse de voir comment les personnes se l'approprient. J'aime autant la vie qui joue le total look et puis ça me touche, que la fille qui arrive à la mixer. Et en fait, la fille qui arrive à la mixer, ça me donne des idées. Et en fait, j'ai vraiment, pour moi, une récompense, carrément. Enfin, je me dis, bon, bah voilà, tout ça pour ça, à la fin, le voir porter, voir des filles qui se sentent belles. Enfin, voilà, pour moi, le vêtement, c'est pas un sujet si... Enfin, ça doit être léger, parce qu'on sauve pas des vies. En revanche, je trouve que c'est hyper important de bien se sentir dans un vêtement. Et moi qui admire de manière sans limite Saint Laurent, qui disait qu'un passeport, un bon vêtement, c'est un passeport pour le bonheur, en fait, je suis assez d'accord, parce qu'en fait, une fois qu'on est délesté de toute entrave et qu'on se sent bien, on se sent vachement en confiance, je pense qu'on n'aborde absolument pas la vie du même côté. Et chaque journée, quand on est à l'aise et qu'on se sent fidèle avec ce qu'on est, mais avec si possible quelque chose d'assez joli, je pense que c'est un vrai rôle qu'on joue finalement.
Carrément. Et pour revenir sur la distribution, donc tu avais ton agent, ton showroom, tu faisais le Tranoï toutes les saisons.
Ouais.
Et comment ça a évolué tout ça?
En fait, encore une fois, de manière assez fluide et naturelle, avec évidemment, en fait, chaque salon nous amenait un lot de rencontres déjà. Donc, ce distributeur français, cet agent français, sur le coup, je me dis, en fait, j'ai pas besoin d'un agent français, je connais parfaitement l'agent français. Quel est l'intérêt, en fait, de prendre un showroom aussi beau soit-il, aussi sympa soient les gens qu'on rencontre, voilà. Et là, Thomas me dit, mais en fait, justement, Anne-Fleur, lâche le marché que tu connais et concentre-toi sur d'autres choses. Et là, j'ai fait « Ok, il a raison ». Évidemment, en fait, savoir s'entourer, après, c'est une des clés de réussite dans le secteur. Ça sert à rien de vouloir toujours tout contrôler. Et il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Donc première très belle rencontre. En plus, pareil, des agents qui sont au-delà de l'agent, qui jouent un rôle de prescripteur, qui nous permettent de repousser nos limites, qui sont hyper exigeants, mais dans le bon sens du terme, en fait, qui nous font grandir, en gros.
C'est sur quoi ils sont exigeants, par exemple?
Exigeants sur la qualité, déjà, c'est des gens qui défendent énormément leurs clients, donc en fait, ils nous retranscrivent tout un marché, un message, et puis exigeant parce qu'ils veulent qu'on repousse nos limites. Enfin, ils se contentent pas d'une couche superficielle, et parfois ils venaient à des rendez-vous en cours de création de collection et ils nous challengeaient. Donc c'est en ça que c'est intéressant, ce genre de collaboration. Après, pareil, agent américain, distributeur américain, en fait, tout ça, c'est fait sur les salons. Donc, on a été faire également des rencontres aux États-Unis, un premier showroom. Enfin, ça se fait, en fait, de manière progressive. Et du coup, on rentre chez Barneys, chez Shopbop à l'époque, une distribution qui se développe un peu partout à travers le monde.
Mais toujours très prescripteur. J'ai l'impression. Non, c'était vraiment des retailers qui étaient vraiment high level. Quoi.
Je pense, déjà, notre produit fait qu'on plaît une certaine catégorie de clients. En fait, je pense que si on ne s'est pas trompé sur un truc à la base, c'était là-dessus. C'était pour ça que le premier salon était si important pour nous, c'est qu'il validait tout ce qu'allait être Rosanna ensuite. C'est-à-dire que, en fait. J'ai pas envie de dire sans trop d'efforts, parce que c'est énormément de travail, mais en tout cas, pour convaincre ces personnes-là, quand on proposait la bonne collection, enfin, en tout cas, quelque chose d'intéressant, ça se faisait assez naturellement et sans forcer. Pareil pour les partenaires, ils sont venus à nous, à chaque fois.
Ça, c'est quand même cool.
C'est quand même cool.
Mais non, mais ça veut dire que tu fais les choses bien, quoi, a priori.
On s'efforce.
Non, mais c'est quand même des super bons signaux, quoi, quand t'as des gens qui viennent vers toi. Mais dès le premier jour, en fait, quand tu as des gens qui viennent te donner un coup de main dès le premier jour, tu te dis, ça plaît, ça attire, c'est quand même un super signal.
Ah ouais, c'est sûr.
Est-ce qu'il y a d'autres milestones que tu veux nous partager?
Alors.
Non, peut-être juste pour revenir sur la distribution, un sujet dont on ne parle pas souvent dans ce podcast, c'est ton showroom, il prend combien ? Il prend combien comme commission sur les ventes ?
Alors, donc, on a plusieurs showrooms maintenant parce qu'on a showroom France-Espagne. On vient de signer avec un nouveau partenaire Benelux et un nouveau distributeur aux États-Unis. Donc, en fait, en règle générale, c'est 12%. Il y a quelques conditions qui peuvent être négociées parfois, mais 12%, c'est à peu près une moyenne normale. Après, un importateur, c'est un peu différent parce qu'il se charge de toute la logistique et de l'aspect recouvrement. Donc, ça se rémunère différemment et un peu plus. Donc, ça peut aller jusqu'à 20, parfois 25. Mais ça te donne un ordre de grandeur à peu près, je pense.
Et si tu devais recommencer Rosanna aujourd'hui, tu le ferais pareil ?
Alors aujourd'hui en 2019, on fait voilà, on se remet pas à l'époque et tout ça. Je ferais pas pareil. Déjà, je pense que le marché a évolué d'une manière fulgurante.
Qu'est-ce qui a changé ?
Les réseaux sociaux, les pure players, tout ça. Enfin, ça a rebattu complètement les cartes dans le secteur. Nous, on était juste avant tout ça. Nous, quand on a lancé la marque, donc on était encore une fois que wholesale, que multimarque, que ce canal-là. Quand on a créé notre boutique en ligne, notre e-shop, on l'a caché dans notre site tellement on était gênés, tellement nos clients nous incendiaient. Ça faisait terriblement peur à l'époque. Les pure players étaient diabolisés, comme taxés d'une concurrence déloyale. Enfin, c'était voilà, une autre époque, quoi. Alors qu'aujourd'hui, c'est complètement naturel et fluide et tout ça. Donc, si je devais créer Rosanna de nouveau aujourd'hui, évidemment qu'il y aurait une partie digitale dès la création. Et je pense qu'on s'entourerait différemment. En fait, si je crée Rosanna aussi, on n'a pas le même âge, on a évolué, le secteur a évolué. Donc, je pense qu'on prendrait des gens avec plus d'expérience. Directement, on irait plus vite, je pense.
Là, tu soulignes quelque chose de vachement important. Parce que quand on est jeune entrepreneur, on a souvent on a du mal à investir sur des gens. Parce que c'est beaucoup d'argent, c'est un gros salaire, etc. Et alors que c'est quand même un des moyens pour gagner beaucoup de temps.
Ah mais non, mais c'est sûr. Et en fait, c'est clairement un travail d'équipe à la fin. Enfin, nous, on a une équipe exceptionnelle qui nous permet de nous développer comme on l'entend parce qu'on a des gens qui soulèvent des montagnes au quotidien, qui s'amusent, qui s'éclatent, qui sont aussi impliqués parfois que je peux l'être, que Barbara, donc que Dan. Enfin, on arrive en fait à s'entourer de gens assez exceptionnels. Donc pour moi, c'est vraiment
c'est essentiel.
Le secret de la réussite.
Et le management, pour toi, ça a été quelque chose de naturel très rapidement ?
Embarquer les gens dans un projet, c'est plutôt naturel parce qu'en fait, on était tellement excités que je pense que ça se diffusait. Maintenant, plus la boîte grandit, plus le sujet du management est une vraie question. Nous, on est en telle mutation en ce moment que manager, je pense que ça demande pas mal de temps et de prise de hauteur et d'accompagnement. Du coup, je ne sais pas si c'est ma qualité principale à la minute, étant donné que je fonce toute la journée, toutes les semaines et que tout s'enchaîne de manière très rapide. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aime faire.
Faire grandir les gens ?
Oui. En fait, je suis hyper sensible au fait que les gens s'épanouissent, qu'ils soient hyper engagés, que je ne retiendrai jamais quelqu'un qui veut partir, bien au contraire. En fait, je me rappelle bien de cette première expérience où on m'a rattrapé et franchement, c'était un cadeau pour personne et je l'ai subi. Du coup, pour moi, c'est hyper important de vibrer et de le ressentir et d'échanger.
Pour revenir sur les investissements et les investisseurs, je trouve que c'est intéressant de comprendre le premier investissement. Le premier investisseur qui est arrivé, qu'est-ce qui vous a permis de faire, en fait, à part financer votre stock ?
Il nous a permis de nous projeter. En fait, il nous a fait quelque part, on était forcés de nous projeter puisqu'on n'avait jamais fait de business plan. Donc, il était temps d'en faire un. Ouais. Donc, quand bien même on n'avait pas écrit quelque chose à 10 ans, mais en tout cas, ça permettait d'aborder les 3 prochaines années et puis d'échanger sur la stratégie avec mon associé parce que finalement, on avait peu le temps de le faire.
Ça permet de prendre de la hauteur.
Voilà.
Et le deuxième, le BPI ?
Clairement, ça permet là de se projeter pour le coup plus loin, plus haut, de voir les choses en plus grand et de venir consolider une équipe
qui à l'époque n'était vraiment constitué que de juniors, de gens qu'on avait formés et tout ça. Et grâce à l'apport de la BPI, on a pu engager des experts, des gens plus seniors. Mmh. Donc ça, ça a changé beaucoup de choses. On a vraiment fait évoluer de manière folle nos exigences en termes d'exigence qualité, d'excellence de process. Enfin, c'est la première fois que des talents confirmés nous rejoignaient. Jusqu'ici, on n'avait que des talents juniors géniaux. Mmh. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir une équipe dans une société. Je trouve, ouais, en termes d'âge, d'expérience et tout ça, c'est sympa de mélanger.
Puis quel soulagement pour un fondateur.
Mais bien sûr.
Ça doit être énorme. Et le... Comment dire le... Comment tu le vis, enfin, comment tu choisis ces gens-là d'ailleurs? Tu te fais accompagner par la BPI, ils te conseillent de prendre des gens, ils les voient pour recruter. Non, tu te fais confiance.
Pour le coup, ils nous laissent totale liberté là-dessus. En fait, la BPI, ils ont un rôle hyper bienveillant. C'est des gens qui suivent vraiment au quotidien ou mensuellement ou à la carte. Ils s'immiscent en rien dans la vie de la société. En revanche, ils sont là toujours pour nous fournir des conseils. Ouais. Leur réseau étant absolument tentaculaire, il y a toujours quelqu'un qui peut répondre à la question, ouais, qu'on pourrait se poser, machin. Ouais. Donc, c'est un réseau absolument génial et des gens hyper bienveillants qui nous laissent grandir. Évidemment, ils ont des attentes et des exigences, mais je pense que ils sont plus patients que d'autres pourraient l'être. Ils respectent vachement l'ADN de la marque. Ils nous poussent pareil, en fait, un peu comme tous les partenaires qu'on a pu avoir, à nous projeter, à repousser les limites, à cranter et tout ça, mais avec énormément d'accompagnement, ouais, et de bienveillance. Ouais.
Et alors, raconte-nous cette entrée au capital de Dan Arouas, qui est passé ou qui passera dans l'épisode, je ne sais pas s'il passera avant ou après toi, dans le podcast. Raconte-nous cette rencontre et lui pareil, parce que j'ai l'impression qu'il vous fait aussi passer un cap, quoi.
Ah ben complètement. Ouais. Là, on va dire que c'est la troisième vie de Rosanna, je dirais, après la création, le développement et consolidation. Là, c'est l'accélération. Donc, Dan Arouas, c'est vraiment une rencontre hyper fluide.
Mais il a toujours, enfin, comme Roxane, elle était chez Bache avant, il a toujours été là, Dan. Non, tu l'avais jamais croisé auparavant?
Moi, je le connaissais ni d'Ève ni d'Adam. J'en avais énormément entendu parler, mais je pense qu'il était bien trop occupé pour s'intéresser à nous à l'époque. Et puis voilà, je le connaissais de réputation, mais voilà. On a été amenés à se rencontrer il y a 2 ans. Une vraie rencontre où je me suis dit, tiens, j'aime bien cette personne, alors que vraiment, je... n'imaginez pas spécialement. Et un petit truc se passe, une connexion. Et puis voilà, 2 années s'écoulent. Et là, on se voit en mai dernier. On prend un petit café ensemble. Je m'étais mis un peu la pression parce que je ne savais pas pourquoi, comment et tout ça. Et en fait, je sors de ce rendez-vous hyper légère, limite reboostée. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a su préserver une fraîcheur. Enfin, c'est quelqu'un qui a une réussite assez flamboyante et qui, en même temps, a gardé une âme d'enfant, d'entrepreneur. Et du coup, on s'est retrouvés là-dessus. C'est que, pour moi, c'est hyper important de continuer d'être curieux, de continuer de vibrer.
Et de s'amuser.
Et après, un autre sujet qui m'a... Un autre aspect, une caractéristique de Dan, ça a été vraiment l'aspect humain, où je sais et j'ai vérifié et voilà, qu'en fait, c'est quelqu'un qui fait grandir les gens. Et j'ai trouvé que c'était génial, en fait, par les temps qui courent, de se dire, tiens, quelqu'un qui place aussi l'humain au cœur des projets, qui est business, évidemment, mais qui fait grandir les gens, qui les accompagne. Donc ça, ça a été un peu un coup de cœur professionnel. Donc Dan est arrivé en octobre, il a commencé à vraiment nous accompagner. Il est arrivé avec Barbara Caranta, qui était la directrice retail de Bache, donc qui est arrivée avec un bagage extrêmement solide sur une partie qui, du coup, était loin d'être notre spécialité. Et en fait, il est entré au capital et on a écrit une nouvelle histoire ensemble qui est en train d'être vécu en ce moment et avec une année absolument
dingue.
Ouais. Je sais pas, j'ai jamais vu ça. C'est un train lancé à toute vitesse. Je suis.
C'est une accélération.
Non, mais c'est étourdissant et hyper excitant, quoi. Et ce qui est super, c'est que c'est déjà plein de petites victoires. Enfin, voilà, en fait, ce que j'aime aussi dans le discours de Dan et de Barbara, c'est que bah, moi, j'avais plein de certitudes et de convictions, mais pour le coup, je sais écouter. Et voilà, et j'ai une casquette de directrice artistique, mais aussi d'entrepreneur. En fait, j'ai cette espèce d'ambivalence qui fait que je prends de la hauteur, je sais entendre les choses. Et il m'a dit à un moment donné, Barbara, laisse-nous aussi faire de temps en temps. On teste et on rectifiera le tir, mais on se juge pas, on fait ensemble, on montre un front uni. Et tout ça, c'est des choses que je partage à 1000%. Donc, en fait, c'est ce qu'on fait depuis bientôt un an, enfin, à peine un an. Et on a franchi des caps. On a une année excellente, un atterrissage fou en perspective. Et ouais, en fait, on accélère d'une manière multicanale. Donc, autant wholesale avec la signature de partenariats fou à travers le monde. Ça, c'est un espèce d'alignement des planètes, je sais pas, en tout cas. C'est génial. En même temps, une accélération dingue sur la partie digitale sur laquelle on n'était pas spécialement, on n'excellait pas. Donc, ils sont arrivés, bim, on a refondu l'e-shop, on a dédié quelqu'un, on a revu plein de choses, le e-merchandising, tout ça, le référencement. Et là, ça a une envolée lyrique. On fait x4 sur le digital en 9 mois.
Ouais, c'est pratique. Hein.
Voilà, tout, okay. Sur tous les sujets, c'est...
Ouais, bah t'es entouré de bons, quoi.
Ah bah ouais. Bah là, je pense que j'ai beaucoup de chance. Non, et puis dans une bonne ambiance. Après, j'ai... En fait, c'est ce qui est rigolo, c'est que je pense que j'ai jamais autant travaillé, mais pas sur des amplitudes horaires. Parce qu'en fait, bon, maintenant, j'ai quand même 2 enfants, j'ai ma vie, et Dieu merci, c'est hyper important. Mais en termes d'intensité, quand je suis au bureau, je crois que j'ai tout donné, tout ce que j'avais, pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'était fixés, en tout cas sur la partie créative des collections et tout ça. Ça a été une année...
Ça donne une énergie folle, quoi, j'ai l'impression. Ouais.
Et puis c'était hyper challenging, et finalement j'adore ça. Donc,
Ouais, t'es une compétiteur, quoi. Compétiteuse, compétiteur.
Compétitrice,
pardon. Ouais, je suis un peu dyslexique. Mais tu dis qu'il t'a fait changer d'avis sur des trucs... Comme quoi, par exemple, c'était quoi les... T'avais des idées arrêtées, très arrêtées sur plein de choses, tu disais, mais sur quoi il t'a fait évoluer ?
La distribution, pour moi, le côté confidentiel, c'était cool. Et en fait, je me rends compte que c'est pas une fin en soi, au contraire. Sur lui faire confiance sur un quartier comme le 16e arrondissement, qui est pas forcément au début un choix que j'aurais pu faire. Sur la prise de risque d'ouvrir 3 boutiques en 3 mois. Enfin, moi qui ai une éducation hyper conservatrice, qui gère tout comme un bon père de famille. Là, d'un coup, il m'a fait accélérer sur des sujets comme ça. Après, sur le travail de la collection, en fait, il y a eu des réunions en cours du processus créatif. Pour moi, c'était hyper dur de m'arrêter en route pour pouvoir partager ce vers quoi j'allais. Enfin, c'est un vrai sujet de partager quand c'est pas fini. Ouais. C'est comme montrer sa copie en cours de route, c'est compliqué. Ça a permis de rectifier quelques, après, soit ça a conforté certaines idées, soit ça a permis de rectifier le tir sur certains autres sujets. Après, oui, Barbara et lui me pousse à développer des produits parfois plus faciles, plus quotidiens, plus confortables. Enfin, c'est des trucs qui n'étaient pas mon centre d'intérêt à la base. Mais à la fois, j'aime bien, je trouve ça intéressant d'être plus pragmatique parfois dans la création. Et tout en préservant, évidemment, là où j'ai carte blanche totale, c'est sur le cœur de collection qui est ce qui fait Rosanna. Donc là-dessus, carte blanche, ils sont...
J'ai l'impression qu'ils ont quand même cette intelligence, comme d'autres personnes qui sont passées dans ce podcast, de dire la création, on n'y touche pas. Quoi.
Ah bah oui, ils sont venus pour ça.
C'est le nerf de la guerre.
Donc
quoi.
Ça serait une folie de vouloir...
Qu'il est le truc, ouais.
Tout simplement...
Modifier.
Dan, comme Barbara, n'aurait pas rejoint ce projet si, à la base, il n'y avait pas justement cette petite flamme ou cette particularité, cet ADN fort. Donc, l'idée, c'est en aucun cas de s'en éloigner, mais de consolider, d'ouvrir un peu le prisme parfois. Et
donc, Barbara est arrivée en même temps que Dan.
Grosso modo, oui.
Donc, CEO, directrice générale, c'est ça, hein, son titre. Comment vous répartissez les tâches finalement?
Ah bah là.
Parce que toi avant t'étais la patronne avec Roxane.
Multicasquette, multifonction, couteau suisse, sur tous les sujets et du coup ça reléguait parfois la créa au deuxième plan, ce qui est quand même le cas de quasiment toutes les personnes que tu as dû rencontrer. Et d'un coup la Barbara, alors ça s'est fait progressivement, mais depuis qu'elle est arrivée ça a littéralement révolutionné mon quotidien, parce qu'elle m'a soulagée de dossier en dossier jusqu'à là à aujourd'hui. Je pourrais dire que je me concentre quasi exclusivement sur la direction artistique, l'image. Donc là, il y a le concept retail et des sujets comme ça, mais en tout cas, je suis sortie du RH, je suis sortie des aspects purement compta, avec aucune valeur ajoutée. Alors, je garde, évidemment, je travaille en étroite collaboration avec la directrice de collection qui est extraordinaire. En fait, je m'immisce encore sur pas mal de sujets, mais avec une volonté à terme de me concentrer vraiment sur la communication et tout, c'est-à-dire le rêve a priori de tout
de toute DA.
Bah ouais.
Faire que ça.
Bah voilà.
Étant entrepreneur et s'intéressant au business quand même,
parce que pour le coup c'est j'aurais toujours cette curiosité là et ça m'amuse, mais en revanche c'est vrai que c'est génial de pouvoir avoir l'impression de parfois on passait un temps fou sur des sujets sur lesquels on savait qu'on avait aucune valeur ajoutée. On les faisait. Je pense que c'est hyper important de tout maîtriser à un moment donné. En revanche, il faut savoir à un moment déléguer, s'entourer, parce que c'est juste une question de perte de temps et de manque de valeur ajoutée sur des sujets nécessaires. Mais voilà, c'était une déperdition de temps et d'énergie par moment. Donc ça, c'est pour moi une révolution aussi qui s'est produite cette année.
Trop bien. Ok, et alors c'est quoi le futur ?
Ah bah, le futur, donc c'est en fait de continuer ce qu'on a amorcé cette année, continuer d'accélérer. On a une volonté de développer le réseau retail avec des ouvertures prochainement à Londres, en Belgique, en tout cas à l'international. De construire des collections de plus en plus belle, je le souhaite, et avec donner du sens, parce qu'on aura plus de temps pour aller au bout des choses. Continuer ce qu'on vient d'initier cette année, poursuivre cette nouvelle histoire, ce nouveau chapitre.
Il y a eu des moments où tu étais vraiment au fond du trou.
Ah bah évidemment.
Non, mais est-ce qu'il y a eu des moments très difficiles où Rosanna a failli nous quitter, quoi?
Alors, les moments difficiles, encore une fois, sujet prod, ça nous a dévastés par moments, et franchement, on n'en est ressorti que plus forte, parce qu'on a appris à gérer ce stress-là et à ne pas se créer des ulcères, gestion de sujet prod. Deuxième sujet qui peut être très angoissant, c'est quand on a la responsabilité d'une équipe. Évidemment, les sujets de trésorerie, c'est vraiment méga anxiogène. Je dirais que c'est le deuxième sujet. C'est encore une fois évaluer le BFR et savoir bien s'entourer et surtout anticiper. C'est pas quand il y a une urgence qu'il faut aller voir les banques. C'est pas quand il y a une urgence qu'il faut lever des fonds.
C'est quand tout va bien.
C'est quand tout va bien. Ouais. En fait, quand tout va bien, c'est là qu'il faut se dire, mon Dieu, c'est maintenant ou jamais. Des moments dévastés. Évidemment, je me suis séparée de mon associé, donc c'était pas un moment hyper léger dans la vie, dans l'histoire de Rosanna. Il n'empêche que pour moi, ça a été une expérience extraordinaire, une hyper belle collaboration, association. On est resté associé quand même quasiment 10 ans. Donc pour moi, quand même, une super tranche de vie.
Entre 30 et 40.
Quand même assez fou.
Et d'ailleurs, juste pour rebondir là-dessus, parce que comme vous créez ensemble les collections, comment tu fais tu te retrouves tout seul aux manettes de la création? C'est difficile.
Ça, c'était le saut de l'ange. Par exemple, c'est un moment où évidemment j'étais super impressionnée. Donc à la fois j'ai essayé d'avancer. En fait, moi, je regarde rarement le sommet de la montagne. J'ai plutôt tendance à avancer, puis en regardant mes pieds, et puis voilà, et puis ça sort, et puis ça sort. Et encore une fois, la récompense, c'est quand on montre ce qu'on a fait, son travail, et donc on reçoit nos clients dans notre showroom, et que là, c'est validé par les premiers acheteurs clés, type Le Bon Marché à l'époque. Enfin voilà, et des gens qui me disent que ça se voit, que ça a évolué, mais d'une manière bienveillante, et voilà. Et ils m'ont dit, on a compris que tu t'étais... En fait, c'est des clients qui m'ont dit, ok, tu viens donc de te séparer de ton associé, en fait, ça se voit. J'étais, ah bon, mais comment vous pouvez... Enfin, j'étais
Bah oui.
Assez étonnée qu'on puisse dire ce genre de choses. Et donc, voilà. Donc, oui, ça fait partie des étapes, en effet, assez charnières.
Ouais.
Et puis, voilà. En fait, c'était encore comme une petite... comme le lancement d'une nouvelle histoire. Mmh. Mais là, ça fait déjà presque 2 ans. Mmh. Et déjà, la 6e collection, j'ai faite...
toute seule.
Ouais. Ah ouais. Après, j'ai quand même plein de bienveillance et d'amis et voilà qui m'entourent.
Ouais, tu demandes des avis quand même.
Ah bah bien sûr, Thierry qui m'accompagne au quotidien, à qui je raconte tout. Ma belle-sœur qui est architecte et j'adore son œil et une approche un peu différente. J'aime bien l'idée de pas être entourée que de gens de l'univers de la mode et exclusivement de la mode. J'aime bien me nourrir de plein de choses. Et puis Patricia Romatelier. FM, oui. Qui est directrice des études et que j'ai rencontré justement avec IFM Label.
Ouais, on n'a pas parlé de ça. Ouais, c'est dommage. Parlons d'IFM Label. Ouais. Mm. Parce que Patricia Romatet, c'est bizarre, elle n'est pas encore passée dans mon podcast.
Ah,
mais
il faut qu'elle passe.
Mais il y en a beaucoup qui m'en ont parlé et tout le monde me dit il faut absolument que tu l'interviewes.
Ah,
alors
bah,
il faut
que je le fasse. Elle est super.
Mais je ne la connais pas, je ne l'ai jamais rencontrée. Donc si tu peux me mettre en relation avec elle, ça serait
avec
cool.
Avec grand plaisir. Ouais.
Qu'est-ce que ça t'a apporté, IFM Label ? Explique-nous peut-être ce que c'est, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est.
Bah alors, du coup, c'est accompagnement de jeunes entreprises. En tout cas, c'est comme ça que on pitchait à l'époque. En fait, c'est des experts qui viennent faire c'était des rendez-vous avec des thématiques précises à chaque fois. Je t'avouerai qu'on n'a pas été toujours présente parce que parfois prise par le temps, mais il y avait par exemple, la distribution, le marketing, le digital, le financement, enfin voilà. Et c'était du coup très enrichissant parce qu'en fait, ça nous donne accès encore une fois à un réseau. Mmh. Du coup, on a des réponses immédiates. Mmh. Donc en fait, on a un gain de temps énorme. Et puis des rencontres d'autres marques. À l'époque, on avait un super groupe. Donc, c'était je dirais principalement du réseau et des réponses à nos questions. Et c'est déjà un luxe extrême. On a rencontré après pour les besoins de financement l'IFSIC. Il y avait un rendez-vous, on leur serre la main. 2 jours après, on était dans leur bureau. Enfin, tout était comme ça.
Ça facilite beaucoup les choses. Hein. C'est quand même vachement bien. T'as le programme Talent aussi de la fédération qui fait ça et qui te met en relation avec les différentes institutionnelles comme le BPI, l'IFSIC, le DEFI, etc.
Je pense que pour ça, en France, on a une chance extraordinaire.
Ouais, franchement, on est hyper bien entouré. Ouais. On peut vraiment se faire entourer comme il faut. Et juste IFM Label, ils ont accompagné des gens, ils ont accompagné plein de marques qui ont super bien marché derrière. C'est impressionnant. Il me semble que Vêtements est passé chez eux,
oui.
Jacquemus est passé chez eux.
Il y a une intervention quand même. Devant Vêtements à l'époque, je trouve que c'est assez mythique parce que juste après, ils sont passés juste après nous. Et du coup, ils demandaient aux anciens de venir intervenir de temps à autre. Et du coup, ils ont eu vraiment des très beaux noms, des jolies histoires qui sont passées par IFM Label.
C'est chouette. Hein. Mmh. Trop cool. Et qu'est-ce que tu ferais différemment dans toute cette histoire ?
Si je réécrivais l'histoire de Rosanna ? En fait, j'ai pas beaucoup de regrets, hein, donc j'aurais tendance peut-être à encore une fois aller plus vite dans la prise de décision pour certains sujets, mais sinon je ferais exactement ce qu'on a fait, la même chose, parce qu'on s'est quand même bien éclaté, on a pris beaucoup de plaisir. Donc voilà, à part le sujet temps et une petite je serais peut-être allée plus vite sur certains sujets, mais sinon je regrette rien. Je suis hyper fière du parcours, Donc non, je changerais pas grand-chose. Et tant mieux.
C'est bien. C'est bien de pas regretter. Non, mais toi, j'ai l'impression que tu regardes pas trop en arrière, donc tu dois effacer de ta mémoire les mauvais moments.
Mais très certainement, ça doit être. Ça doit être une faculté que j'ai. Non, mais c'est vrai que quand tu demandais est-ce que t'as déjà été dévastée, évidemment que j'ai déjà dû être dévastée, mais en fait, après une bonne nuit de sommeil, moi, je redémarre. Je renais de mes cendres, comme dirait mon petit frère. Je suis le phénix. Donc je sais pas si je suis faite de ce bois-là. Donc en fait, c'est comme ça. Après, j'avoue que d'avoir des enfants, c'est aussi une soupape énorme qui permet de relativiser tous les sujets et qui permet en fait de dire que tout ça n'est donc pas si grave et de continuer d'avancer coûte que coûte. Et voilà, je suis dans une action permanente. Mmh.
comment tu fais pour te nourrir en permanence? Que je trouve que quand, ce qui est difficile quand t'es DA comme ça, c'est que tu peux vite tourner en rond finalement. Comme t'es tout seul à la tête en plus maintenant, il n'y a plus trop d'échanges. Et comment tu fais pour te nourrir, te renouveler et ne pas t'encrouter, quoi?
Alors, ben, je pense que pour le coup, pareil, en fait, j'ai vraiment été élevée là-dedans, les expos, les bouquins de peinture, enfin, ça, c'est genre mon quotidien. Encore une fois, les entrepreneurs et tout, c'était une autre frange, mais du coup, c'était, je sais pas moi, le petit faune, donc la maille, le tricotage, enfin, tout ça, c'est quelque chose de complètement naturel. Donc en fait, j'ai toujours fait des expos. Je dès que je peux, j'essaie de regarder des films. J'adore le cinéma. Enfin, c'est pour moi pas tellement une question. C'est qu'en fait, ça se fait tout naturellement. Donc c'est aussi bien en allant prendre un café le matin, en écoutant une musique, en regardant un documentaire. J'adore me nourrir de documentaires. La lecture aussi. Donc en fait, tout ce que je fais, et c'est ça qui est assez génial, c'est pour ça que la frontière entre vie perso et vie professionnelle est hyper mince pour moi, c'est qu'en fait, même quand je voyage, même si je fais une balade en dromadaire avec mes enfants dans le désert, en fait, je réfléchis en permanence. Quand je suis sur mon vélo, je réfléchis et je regarde, je scanne en fait tout ce qui m'entoure. C'est, voilà. Donc ça peut, je suis inspirée par plein de choses. Et après, c'est vrai que j'ai une sensibilité pour l'art. Là, tu vois, comme justement donc cette équipe qui se constitue de manière de plus en plus solide autour de moi, ça me permet de faire des rencontres un peu, justement, et de me réouvrir, parce que c'est vrai qu'on avait tendance parfois à être dans un circuit un peu fermé. Et là, par exemple, pour la collection qu'on est en train de présenter, donc l'été 2020, en fait, j'ai vraiment flashé sur une thématique qui était artiste artisan, point d'interrogation, expo de 1977 au Musée d'art moderne de Paris. Et en fait, j'adorais l'affiche de cette exposition. Donc, on fait des recherches, on trouve le catalogue de l'expo. Et en fait, en 77, c'était des livres, les catalogues d'expo. Donc voilà, on feuillette ce magazine. On se rend compte qu'il est tamponné à la fin, d'Edith Raymond, copyright et tout ça. Justement, Patrice Hormaté me dit, mais qui est Edith Raymond? Et donc là, évidemment, on Google, parce que tout ça maintenant est assez facile de faire des investigations. On se rend compte qu'Edith Raymond est plus active que jamais, à la tête d'un super site et tout ça. On la contacte, on lui dit que c'est la thématique de la collection, parce que pour moi c'était hyper intéressant, parce que déjà la question de quelle est la frontière entre l'art et l'artisanat, je trouve que c'est une question philosophique sans fin. Et puis pour c'était un excellent terrain de jeu, parce que du coup ça me permettait de faire des choses ultra féminines, soir, paillettes, machin, nanan. D'un autre côté, quelque chose d'activewear, des drippings à la Pollock sur du denim. Enfin voilà, c'était pour moi plein d'inspirations divers. Et donc, on contacte Edith Raymond qui nous dit, je fais un vernissage ce soir. Bim, on va au vernissage. À cette époque-là, donc c'était, en juin, elle faisait une exposition de broderie. C'était sublimement beau, enfin, hyper inspirant. On lui dit, on aimerait creuser un peu avec vous cette partie-là, ce 1977 et tout ça, exposition passionnante. Et là, elle nous reçoit chez elle. Et là, grand moment d'émotion. On est dans son bureau, elle nous sort le dossier comme si daté d'hier, 1977. J'ai été contactée par telle agence à l'époque, hyper précurseur, de demander à une femme de s'occuper, en fait. Finalement, on était encore là, une autre époque. Donc, c'était une femme hyper précurseur avec un goût très sûr. Et là, elle nous montre toutes ses planches d'études, typos et tout ça. Les photos d'elle en pâte d'eff, machin. Enfin, bref, une rencontre, mais d'une émotion folle. Et en découle une collaboration. Donc en fait, je dirais que l'inspiration, c'est par ce genre de choses, de rencontres et tout ça, et de plus ça va aller, plus j'ai envie de développer des collaborations avec des artistes et toutes générations confondues. Et donc cette femme a une fraîcheur de dingue, elle a 82 ans, et du coup je lui envoie au fur et à mesure de notre collaboration les éléments qu'on a fait, et je vais bientôt pouvoir lui présenter la collection, sachant qu'il y a un thème qui est donc qui s'appelle Edith, hein, et qui illustre sur une partie de son travail de patchwork et tout ça, et on l'a concrétisé en faisant nous-mêmes un plaid qu'on s'est approprié, mais avec des codes d'Edith Raymond. Donc c'est hyper vaste.
Ouais, mais ça, c'est le genre de rencontres qui sont... c'est pour ça que tu fais ce métier, dingue. Quoi, finalement. Ouais.
Ça donne du sens à ce qu'on fait, et je crois que c'est l'essentiel. de préserver cette curiosité, cette fraîcheur tant que possible.
Et si tu pouvais glisser un mot à Anne Fleur quand tu sortais de S-Mode, tu lui dirais quoi?
Ah bah je dirais fonce, hein.
Fais-toi plaisir.
Toi. Non mais en fait je pense que l'avantage de vivre comme ça, c'est que en fait il faut savoir prendre des risques. En fait ça dépend après de ce qu'on veut, hein. Mais en tout cas quand on a un tempérament comme le mien, moi je pense que la monotonie me tuerait. Je pense que finalement tu me demandais s'il y a des choses qui avaient pu me terrasser. Bah évidemment qu'il y a eu des moments hyper compliqués, mais c'est aussi grâce à eux que j'ai vibré comme une malade. Et en fait, vibrer en permanence, bah, ça n'existe pas. Donc, du coup, il faut traverser toutes ces étapes pour voilà, savoir savourer les petites victoires. Tout ça, je pense que...
Ok. Et dernière question. Qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast?
Bon, alors, il y a plein de gens.
On a dit balance.
Ben Gorham de Bayredo, parce que je rentre de New York et que je trouve charismatique et je trouve.
Mais tu le connais?
Je le connais pas. Je l'ai vu parce qu'il a fait un petit événement en juillet à sa boutique avec sa collaboration avec Charlotte Cheney, là. Pour le lancement de cette collaboration. Moi, je l'ai trouvé déjà magnifique. Hyper charismatique. Et il se trouve que je viens d'acheter un parfum dans sa boutique de Wooster Street à New York. Donc, lui, j'avoue, je sais pas, il m'intrigue.
Non, il est impressionnant, lui.
Ah ouais, il est impressionnant. Et d'un autre côté, dans une autre personnalité, je me suis posé la question justement, bah, c'est Stella McCartney, parce que je trouve qu'elle a une actualité folle, que c'est une pionnière des sujets d'actualité. Du coup, bah, j'aimerais l'entendre. Voilà, je pense qu'elle a énormément de choses à nous apprendre et beaucoup d'audace à partager, parce que d'être passé d'un groupe à l'autre comme ça, enfin c'est complètement fou, je trouve, son histoire. Et il se trouve qu'en plus j'ai travaillé chez Chloé à l'époque où c'était elle la designer, et donc ouais, voilà, la boucle serait bouclée, je rêverais de l'entendre.
D'accord, mais tu devrais peut-être l'interviewer, non?
Moi?
Non mais je crois que je vais lancer ça, c'est une super idée, on c'est demander à des designers d'interviewer d'autres designers.
Ah bah pourquoi
pas. Et enregistrer ces discussions un peu en mode interview à Andy Warhol. Mais c'est vrai que c'est un sujet que j'ai pas abordé, la dimension sustainability. Sustainability. On continue. Comment vous le gérez? Comment tu l'intègres toi aujourd'hui? Parce que c'est quand même un truc. Enfin, on peut plus ne pas y aller, quoi.
Ah bah non, mais ça c'est évident. Bah pareil, si tu me demandais, voilà, entre il y a 10 ans et aujourd'hui, bah je pense que là il y a aussi une révolution qui s'est opérée. Je pense qu'on change tous très rapidement là-dessus, et ça c'est une excellente nouvelle quand même.
C'est extraordinaire.
Alors franchement, nous aujourd'hui, ça passe par plein de petites choses. Aussi simplement qu'on avait des bouteilles en plastique Rosanna, bah elles ont été bannies. Aussi simplement que de faire attention à ce qu'on imprime. En fait, il y a une espèce de conscience générale. Qui se diffuse au bureau, et on a pris le sujet à bras-le-corps. Là, maintenant, c'est un sujet ouvert. On a validé le fait qu'on reverserait une partie des bénéfices aussi à des associations. Et voilà, et après, en trame de fond, il y a une responsable de collection qui vient de nous rejoindre et qui a pour objectif aussi le sujet RSE, parce que c'est un sujet... colossal, qu'aujourd'hui on n'a pas un bureau de recherche et développement comme certains grands groupes, donc c'est pas on est agile, mais enfin ça demande voilà des recherches, donc voilà, c'est notre chantier aussi 2019-2020
de cliner un petit peu
un peu tout ça. Maintenant, nous historiquement on était quand même made in France, historiquement on a toujours été l'antithèse d'une mode jetable, parce que déjà on portait un certain prix, une qualité qui faisait que, en tout cas pour moi, c'est cette petite pierre à cet édifice là quand même, préserver le savoir-faire français, tout ça a été quelque chose de qui font partie de l'histoire de la marque, donc voilà, mais évidemment on se contentera pas de ça, et évidemment on veut aller bien au-delà, et évidemment il y a une prise de conscience folle sur les sujets d'hyperconsommation qui ne nous mettent pas à l'aise
et de réchauffement climatique.
Ouais.
Alors juste avant de terminer, est-ce que tu veux dire un petit dernier mot?
Écoute, oui, je te remercie. J'avais envie de faire un petit clin d'œil à Alec Orlin du Hou, avec qui j'ai presque commencé cette aventure, et donc c'est voilà un petit merci particulier à Alec.
Cool. Bon, en tout cas, j'étais ravi de partager ce moment avec toi.
Merci, moi aussi. Hein.
Je te dis à très bientôt.
À très bientôt.
Salut.
Salut, Adrien.
Merci d'avoir écouté Entreprendre dans la mode. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un message aux invités directement sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leurs bons conseils et de leur générosité. C'est très important pour montrer que Entreprendre dans la mode est vraiment écouté. Tout aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcasts ou iTunes, 5 étoiles de préférence, car ça permet à Entreprendre dans la mode de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Et surtout, ça me motive à faire de meilleures interviews. Il n'y a pas de pub sur ce podcast. Entreprendre dans la mode est financé par ses auditeurs sur patreon.com. Vous pouvez vous aussi rejoindre cette communauté et soutenir Entreprendre dans la mode à partir de 2€ par mois en allant sur patreon.com/entreprendre dans la mode. Le lien est dans la description de l'épisode. Enfin, pour ne rien rater de l'actualité de Entreprendre dans la mode, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Entreprendre dans la mode. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.